L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 4. Courriol nie. La fille Madeleine Brébant. Les charges s'accumulent sur la tête de Lezurk. Le juif David Bernard. La conscience d'un juge. Daubenton dessaisi. Le lendemain, Daubenton, convaincu qu'il tenait entre ses mains les principaux artisans du crime abominable qu'il avait pour mission de venger, priait son collègue de la section de la rue Montmartre d'opérer au domicile du citoyen Joseph Lezurk la perquisition la plus rigoureuse, d'y enlever tous les papiers qu'il y trouverait, les bijoux, argenterie et marchandises, et d'y mettre les scellés pour la conservation de ce qu'il y trouverait. Il écrivait ensuite aux commissaires de police de Douai et de Cambrai pour leur demander des renseignements circonstanciés sur Lezurk et Guénot. Puis, il procédait à un nouvel interrogatoire de Courriol. Celui-ci commença à nier de s'être absenté de Paris les 8 et 9 Floréal et affirma qu'il avait acheté l'argenterie qu'on avait retrouvée dans sa valise à un homme qu'il ne connaissait pas près de la barrière des sergents. « Sans doute aussi, s'exclamait Daubenton, vous ne connaissez pas Bernard. » « Si fait, citoyen, faisait Courriol, je lui ai demandé plusieurs fois des chevaux, et je lui ai même acheté une voiture. » « Et Richard, où l'avez-vous connu ?»« En Belgique, où j'ai fait des affaires avec lui. » « Qu'avez-vous fait le 8 de ce mois ?»« Je me suis promené au palais Égalité, et j'ai vaqué à mes affaires. » « N'avez-vous pas dîné à Montgeron ?»«
Jamais. D'ailleurs, je ne connais pas ce pays. »
« Quand avez-vous rencontré le courrier de Lyon sur la route de Lieusaint à Melun ?» Jouant la comédie de l'indignation, Courriol s'écriait théâtralement.
« Citoyen, vous me percez le cœur quand vous parlez de choses pareilles. Je n'ai rien vu et je ne sais pas de quoi vous voulez parler. »
Sans se laisser démonter le moindrement par ses protestations virulentes, le juge poursuivait. « N'avez-vous pas amené des chevaux à l'auberge du citoyen Morin, le 9 Floréal ?» Courriol, qui sans doute avait préparé sa réponse, répliquait sans sourciller.
« En effet, j'ai rencontré 4 citoyens sur le bord de la Seine et ils m'ont dit aller à la nouvelle poste rue du Louvre et m'ont demandé de conduire leurs chevaux chez Morin, où ils iraient les chercher. Comme je connaissais ces personnes pour avoir fait des affaires avec elles, j'ai fait ce qu'elles me demandaient. »
Sans relever ce que cette déclaration avait d'invraisemblable, Daubenton reprenait. « Richard et Bernard étaient-ils là ?»«
Non, citoyen. »«
Pourriez-vous me dire quels vêtements vous portiez, le 8 et le 9 ?»«
Oh, je ne saurais. J'en ai plusieurs. Ce devait être un habit bleu ou un habit de nankin, avec une culotte à petites raies. »
Daubenton fit introduire le garçon d'auberge à qui Courriol avait remis les chevaux, et il lui demanda « Reconnaissez-vous l'inculpé présent ?» Le garçon répliquait
« C'est bien le citoyen Courriol.
Quel costume portait-il ?»«
Je ne pourrais pas vous dire. »
Désignant une redingote couleur d'ardoise, bordée de peluche noire qui se trouvait parmi les pièces à conviction, le juge demandait au témoin « Était-ce celui-ci ?» Le garçon d'auberge, franchement, répondait « Je ne sais, citoyen. Je me rappelle avoir vu cet habit au citoyen Courriol, mais je ne puis dire s'il l'avait le neuf. À quelle heure a-t-il amené les chevaux ?»
Vivement, Courriol intervenait.
« À 5 heures du matin. »«
Plutôt vers 4 heures et demie, » rectifiait le témoin.
« Comment étaient ces chevaux ?» demandait le juge.
Le garçon répliquait. « Ils ne m'ont pas paru absolument frais. L'un avait brisé sa longe et traînait un bout de chaîne d'un pied environ. »
Daubenton précisait.
« C'est ce cheval qu'on a vu à Montgeron et ensuite à Lieusaint la nuit tombante. Eh bien, que répondez-vous, Courriol ?»«
Je n'ai jamais monté aucun de ces chevaux. »
S'emparant du sabre placé sur la table où se trouvaient d'autres pièces relatives à l'enquête, Daubenton s'écriait
« Regardez bien ce sabre taché de sang. Le reconnaissez-vous ?
Oui, c'est le mien.
Mais je ne sais comment, il y a du sang après. Je l'ai troqué, il y a 2 mois, contre un autre, avec une personne dont je ne connais pas le nom. »
« Décidément !» s'écria Daubenton.
« Vous n'avez guère de mémoire !»
Puis, tout en le fixant bien, de son regard qui semblait descendre au plus profond des consciences, le magistrat lui disait
« Vous persistez à prétendre que vous n'êtes pas sorti de Paris, que vous n'avez pas découché. »«
Oui, citoyen, » répliquait le bandit, déjà avec moins d'assurance.
« Eh bien, vous mentez !»
scandait l'habile enquêteur. « Car hier, votre maîtresse, la fille Brébant, m'a formellement déclaré que vous aviez découché la nuit du 9 au 10, après lui avoir dit que vous alliez à la campagne.
« La garce !»
Couriole, se reprochant déjà cette exclamation spontanée, fit d'une voix sourde.
« Elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Elle est folle. Je suis bien sûr qu'elle n'oserait pas dire cela devant moi. »«
C'est ce que nous allons voir, » répliqua sévèrement Daubenton. Et, s'adressant à son greffier, il lui disait « Que l'on fasse entrer la fille Madeleine Brébant. » Couriole se mordit les lèvres. Décidément, les choses tournaient encore plus mal qu'il ne l'avait redouté. Madeleine parut, encadrée de 2 agents de police. En apercevant son amant, qui dirigeait sur elle un œil mauvais et menaçant, elle ne put réprimer un léger tressaillement qui n'échappa point à la perspicacité de Daubenton.
« Rassurez-vous, lui dit le juge, en lui désignant Couriole, vous n'avez plus rien à craindre de cet homme. Maintenant, je tiens à vous faire savoir qu'il est accusé d'avoir participé à l'assassinat du courrier de Lyon, et qu'à l'heure actuelle, j'ai entre les mains des preuves suffisantes pour être sûr de sa culpabilité. Quant à vous, seul, une franchise absolue peut vous sauver d'une accusation de complicité avec ce misérable. »
Couriole voulut parler, mais, implacable, Daubenton lui imposait silence et reprenait aussitôt l'autorité qui le caractérisait. « Cet homme prétend qu'il n'a jamais découché, jamais quitté Paris. Vous m'avez affirmé le contraire. Persistez-vous dans vos déclarations ?» Toute tremblante, Madeleine Brébant répliquait
« Oui, « citoyen juge. »
« Maintenant, » reprenait le magistrat en foudroyant du regard Couriole qui mâchonnait entre ses dents des paroles inintelligibles, « fille Brébant, je vous somme de compléter les renseignements que vous m'avez donnés en me disant tout ce que vous savez. »
Comme la malheureuse manifestait une certaine hésitation, le juge insistait.
« Allons, parlez. Je vous répète que votre liberté est à ce prix. »
« Eh bien, citoyen juge, » se décidait Madeleine en détournant la tête du côté où se trouvait Couriole,
« le 8 floréal, Couriole est parti à la pointe du jour. Il m'avait dit qu'il allait à la campagne. Il emportait une valise dans laquelle il avait mis quelques effets et puis ses pistolets. Le surlendemain, comme il ne revenait pas et craignant qu'il ne lui fût arrivé malheur, je me disposais d'aller aux nouvelles chez Bernard, quand ce dernier vint me dire que Couriole m'attendait à la maison de la paix, rue des Petits Champs, et qu'il me demandait de lui apporter de quoi se changer complètement et de s'équiper des pieds à la tête. Je fis un paquet des effets demandés, et je courus à la maison de la paix, où je retrouvai Couriole dans la chambre d'un nommé Dubosc. Il était vêtu d'une chemise et d'un pantalon de peau. Il s'habilla aussitôt, et nous partîmes ensuite pour Château-Thierry.
Daubenton reprenait. « Quels sont les gens que vous avez vus le plus fréquemment avec Couriole ?»«
Les citoyens Dubosc, Durochat, Roussy, Vidal, Bruère, Richard et Bernard. »«
Et Guénaud ?»«
Ah oui, mais très rarement. »«
Et le Zurk ?»«
Je ne me le rappelle pas. »
« Ah si, une fois, à un dîner chez les Richards. » Lui montrant alors le sabre taché de sang trouvé sur le lieu de l'assassinat, le magistrat fit.
« Et ce sabre, le reconnaissez-vous ?»«
Oui, » répliqua-t-elle après avoir un peu hésité.
« C'est bien celui de Couriole ?»«
le juge terminait son interrogatoire en disant « Je suis encore obligé de vous garder à ma disposition. Mais, ainsi que je vous l'ai dit, si, toutefois, vos déclarations sont reconnues exactes, vous ne tarderez pas à être mise hors de cause. » Madeleine Bréban remercia en sanglotant le juge. Quant à Courriolles, les poings crispés, les dents serrées, il regarda sa maîtresse s'en aller avec un air si terrible qu'on eût dit que tous ses crimes, qui devaient déjà être nombreux, étaient inscrits sur son visage. « Citoyen juge, fit le greffier à Daubenton, je crois que vous n'avez pas perdu votre journée. » Mais désireux de pousser rapidement et à fond son enquête, il confrontait une heure après Lezurc et Guénaud, les cabaretiers de Lieusaint, avec le citoyen et la citoyenne Champeau, qui déclaraient qu'ils les reconnaissaient et que Lezurc était bien le grand blond qui, ayant cassé un des chéneaux de son éperon, l'avait raccommodé chez eux avec du gros fil blanc. La citoyenne Champeau ajoutait que le grand blond avait voulu payer le café en assignat et que Courriolles l'avait payé en argent. À ces affirmations faites sur un ton de sincérité et de bonne foi qui ne pouvait être mis en cause, Lezurc et Guénaud s'écriaient « Ces gens se trompent, nous sommes innocents !» Bien que Daubenton fût impressionné par les dénégations véhémentes ainsi que par la façon très nette avec laquelle Lezurc et Guénaud avaient répondu aux questions qu'il leur posait, la reconnaissance de ces deux hommes par les témoins qui se trouvaient dans son cabinet était beaucoup trop formelle pour qu'il ne les mît pas en état d'arrestation. Et, comme ils lui affirmaient tous les deux qu'ils étaient en état de lui fournir un alibi indiscutable, le juge leur répondit « Nous verrons cela demain. En attendant, je vous garde à ma disposition. » Et les deux malheureux, littéralement effondrés, furent emmenés au bureau central de police, où ils furent mis en secret dans une cellule séparée. Après avoir congédié Champeau et sa femme, le juge, avant de clore cette journée si laborieuse, décidait d'interroger les autres inculpés qui étaient déjà sous les verrous, c'est-à-dire les Bruère, les époux Richard et David Bernard. Bruère reconnut qu'il avait demeuré chez Courriolles, puis chez Richard, en qualité d'officieux, c'est-à-dire de domestique. Il déclara qu'il ne savait rien et que ses patrons, ayant été arrêtés et ignorant où aller, il ne demandait pas mieux que de rester en prison. Quant au Richard, la femme reconnut que Guénaud, Lezurc, Gaulier et Courriolles avaient dîné ensemble chez elle, mais elle affirma qu'elle ne pouvait rien déclarer de plus. Le mari déposa qu'il avait logé chez lui Courriolles entre le 13 et le 14 du mois courant, qu'il était à Paris le 8 et le 9 dernier, qu'il n'en était pas sorti depuis 10 mois, si ce n'est qu'une seule fois, pour aller conduire Courriolles à Bondy, mais qu'il n'était pas allé à Montgeron à la date du 8. Daubenton entendit ensuite le citoyen Bernard. C'était un juif alsacien né à Metz. Il était âgé de 36 ans, les cheveux, les sourcils et la barbe noirs, le front carré, le visage plat et marqué légèrement de la petite vérole, les yeux gris et une cicatrice sur la joue droite. Il se présenta devant le magistrat, l'air humble, effaré, dans l'attitude d'un homme qui est plutôt poursuivi par des malfaiteurs que par la police. Daubenton commença par lui demander s'il connaissait Courriolles. Bernard répondit que non. Le juge lui dit « Et un nommé Étienne ?» Bernard, comprenant qu'il était inutile de jouer au plus fin avec un tel interlocuteur, s'empressa de déclarer « Ah oui, parfaitement !» Et allant au-devant des questions que l'enquêteur se préparait à lui poser, il fit « Je lui ai vendu une voiture jaune et noire pour 160 000 livres. » Poursuivant son interrogatoire, Daubenton reprenait « Vous êtes établi marchand commissionnaire, rue Saint-Avoy, numéro 175. » Vous avez plusieurs chevaux.
8, citoyen juge.
Qu'ont-ils fait, le 8 de ce mois?
Ils sont restés à l'écurie.
Le citoyen Taquet, préposé à la réquisition, les a vus et pourra en témoigner.
Le 8, cependant, objectait Daubenton, Courriol a été vu monter sur votre jument noire.
Lui aviez-vous prêté cette jument?
Oui, répétait Bernard.
C'est un dimanche qu'il est allé se promener avec au bois de Boulogne.
Je suis sûr que ce n'est pas le 7, le 8 et le 9.
La jument était boiteuse au montoir.
Ce n'est que le 10 que je l'ai montée et que je l'ai fait sortir pour la première fois.
Connaissez-vous le commerce que fait Étienne ou Courriol?
Non, je ne l'ai jamais vu rien faire, ni bien ni mal.
Ne connaissez-vous pas un nommé Guénaud?
Non, citoyen juge.
Et un nommé Le Surc?
Pas davantage.
Ce fut tout, mais c'était suffisant.
Maintenant, Daubenton tenait ou croyait tenir tous les fils de l'affaire.
Mais, avant de clôturer son instruction, il était beaucoup trop prudent et trop impartial pour ne point s'assurer si, ainsi qu'il l'avait prétendu, Le Surc et Guénaud n'étaient pas à même de fournir des alibis et de les justifier.
En effet, au fond de sa conscience, Daubenton gardait un très honorable scrupule et, malgré les affirmations réitérées des témoins, il n'était pas sans se demander si ces derniers n'avaient pas été victimes d'une sorte d'hallucination collective et si les deux amis, ainsi qu'il l'affirmait avec tant de véhémence, n'étaient pas les victimes d'une erreur causée par le hasard d'une ressemblance.
En effet, non seulement l'attitude des deux prévenus plaidait en leur faveur et leur réponse si concordante avait été faite avec un grand accent de sincérité, mais leur situation de fortune personnelle semblait encore les mettre à l'abri de toute tentation criminelle, d'autant plus que leur passé était irréprochable. Et puis, la façon dont ils s'étaient présentés au bureau central n'indiquait-elle pas une grande tranquillité d'âme?
Passe encore Guénaud, lui avait des papiers à reprendre.
Mais Le Surc, pourquoi venir ainsi se jeter dans l'antre de la justice? Pourquoi braver ainsi le danger? Pour égarer les soupçons de la police? Pour pouvoir dire ensuite, au cas où il serait découvert, « Voyons, si j'avais été coupable, est-ce que je serais venu aussi bénévolement me jeter dans la gueule du loup ?»
Argument bien subtil et bien fragile quand on y réfléchit un peu.
D'ailleurs, pas un instant, lorsqu'il s'était entendu formellement accusé d'avoir participé à l'assassinat du courrier de Lyon, il n'avait fait valoir, pour sa défense, sa présence si spontanée dans les bureaux du juge enquêteur. Il s'était contenté de crier, avec un accent tout vibrant de sincérité et de douleur, « Je suis innocent !»
Daubenton, qui était la droiture même, se disait « Après tout, c'est possible. »
Et il se promit, notamment pour Le Surc et pour Guénaud, de ne les envoyer devant le tribunal criminel que lorsqu'il aurait acquis la certitude absolue que ces deux hommes étaient vraiment coupables. Grâce à l'intégrité de Daubenton, Le Surc et Guénaud auraient sans doute été promptement remis en liberté provisoire, car ainsi qu'ils l'avaient déclaré au juge, ils étaient à même de justifier l'emploi de leur temps le jour du crime. Mais un coup de théâtre imprévu allait enlever au juge de paix du quartier du Pont-Neuf l'instruction de cette affaire. L'accusateur public de Seine-et-Marne, estimant que le juge de paix de la section du Pont-Neuf n'avait été chargé de l'instruction de l'affaire que par une sorte de commission rogatoire et que le jury de l'accusation de Melun seul devait en connaître, puisque le délit avait été commis dans l'étendue du département de Seine-et-Marne, réclamait les inculpés. Dès le lendemain, ceux-ci, c'est-à-dire Courriol, Le Surc, Guénaud, Richard, Bruère et Bernard était dirigé sous bonne garde à la maison d'arrêt de Melun. La procédure engagée par Daubenton était déclarée nulle. Tout était à recommencer.